Toulouse. Samedi 5 avril 2014 s'est déroulé le premier marché de nuit des créatrices organisé par l'association Parle avec elle. Cette manifestation s'est appropriée le temps d'une soirée à la rue de Kiev, enclavée entre les gros blocs de béton et le lac de la Rénoie. À la suite de réunions entre l'association et les habitants, le marché des créatrices a vu le jour. Le but premier était de mettre en avant les femmes créatrices de projets. 40 stands ont pris place dans la rue, artisanat, services et alimentation. Parmi eux, un sortait du lot par son originalité, un snack insectivore. Sylvain Foissac, le festin des bébêtes.
L'idée, c'est de proposer un peu une alternative à la viande, quoi, et d'aller sur les événements culturels essentiellement, où il y a un public un peu curieux. Proposer quelque chose qui détonne un peu par rapport au lot habituel, des merguez, brochettes, qui peuvent être bien, mais bon, ça change un peu, quoi. Voilà.
Du coup, l'entomophagie, c'est comme ça que ça s'appelle ?
C'est exactement
c'est
ça.
C'est manger voilà. Des insectes.
L'entomophagie, donc c'est le fait pour un être humain d'inclure. Des insectes dans son alimentation. À titre personnel, on fait avec mon épouse Geneviève Catou, avec qui on monte le projet, on est persuadé que, non pas que ça doit remplacer la viande, mais que ça doit être quelque chose qui doit nous permettre de manger peut-être un peu moins de viande, parce qu'on voit bien que la production de viande pose des problèmes et en posera de plus en plus dans les décennies à venir du fait de l'augmentation de la population. Donc que les gens prennent conscience qu'il y a aussi d'autres sources de protéines, qu'on peut y prendre du plaisir, parce que c'est ce qu'on tient vraiment à mettre en avant aussi, parce que partout ailleurs on nous dit ouais, on va être obligé de manger des insectes et tout, c'est plus sur le ton de il va falloir s'y mettre. On veut montrer aux gens que ça peut aussi être un plaisir.
Du coup, au niveau nutriments, qu'est-ce qu'on retrouve quoi ? Donc il y a des protéines.
Protéines, pas mal de sels minéraux également, des choses qu'on retrouve essentiellement dans la viande et qu'on retrouve dans les insectes en plus grande quantité d'ailleurs. Hein. Par exemple, pour les protéines, à masse équivalente, on a 5 fois plus de protéines dans des insectes que dans un steak par exemple. Quoi. Tout ça avec une production qui est moins nocive en termes de rejet de CO2, qui est moins lourde en termes d'énergie, etc. Je pense aussi, parallèlement à notre projet de snack insectivore, développer des ateliers de sensibilisation auprès du jeune public, du public associatif, dans les centres de loisirs, etc. Pour montrer aussi aux gens qu'on peut très facilement chez soi élever des insectes qui peuvent participer aussi à notre alimentation. D'autant plus si on les élève soi-même, en plus on sait ce qu'on leur donne. C'est même plus du producteur au consommateur, c'est le producteur-consommateur. Quoi.
D'accord. Voilà. Du coup, vous produisez vous-même ce que vous vendez au...
Alors, non, pas notre but. Nous, au stade où on compte distribuer, il va nous falloir quelque chose quand même de plus conséquent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Toulouse, à Saint-Orens exactement, à Saint-Orens de Gameville, à côté de Toulouse, on a un partenaire qui s'appelle Micronutrice, et qui est un des premiers en Europe à mettre en place de l'élevage d'insectes, alors à destination de l'alimentation en fait. Alors pour l'instant, il propose essentiellement des vers de farine et des grillons. Nul doute que dans l'avenir, il va un peu diversifier tout ça. Mais voilà, nous pour ce qu'on compte en faire, on a besoin de partenaires. Et ça se développe, hein, c'est quelque chose il faut que les gens le sachent. Hein. Petit à petit, c'est une économie qui est en train de se mettre en place. Voilà, il y a des gens qui réfléchissent quand même à long terme à ce que tout ça peut devenir. Quoi.
D'accord. Il y a combien de variétés à peu près d'insectes qui peuvent se manger dans le monde ?
Il y en a des centaines. Quoi. Puis, comme on ne connaît pas en plus toutes les variétés d'insectes qui n'ont pas encore été bien déblayées, bien toutes découvertes, il y a énormément d'insectes qui peuvent se manger. Hein,
même en France ?
Même en France, ouais. Il y a eu, ça s'est un peu perdu du fait de tabous alimentaires qui sont assez pesants dans la société, mais qui pourront assez facilement sauter selon nous. Ça s'est un peu perdu, mais il faut savoir que par exemple dans les régions, dans les Vosges, jusqu'à très récemment, les gens consommaient par exemple des larves d'abeilles. C'est délicieux, c'est un mets très prisé, y compris chez nous, plus au sud, des grillons, des sauterelles, tout ça, c'est des choses qui peuvent se manger. et qui ont été consommés en France et pas seulement dans les périodes de disette. Fut un temps où c'était aussi un plaisir.
Il y a beaucoup de manières de les cuisiner en fait, les insectes.
Ah ben oui, puis voilà, il faut pas oublier aussi qu'il y a des, il y a des pays dans le monde où les gens en consomment tous les jours à l'heure actuelle. Notamment en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Et donc, ben, en s'inspirant un peu de toutes ces cuisines-là, en intégrant aussi dans des recettes locales et plus françaises des insectes, on peut trouver énormément de combinaisons. Voilà, y a énormément de recettes à faire. Voilà, et à proposer aux gens.
D'accord. Et là, par exemple, ce soir, les gens, ils sont curieux ou...
Ce soir, les gens sont curieux. Donc voilà, effectivement... ils s'arrêtent un petit peu, il faut un peu discuter avec eux, puis vous voyez, il y en a qui goûtent, hein, on les voit là. On leur propose ce soir ben, des tuiles au parmesan, une petite cuillère de tomato frito dessus, et de tout parsemé de verres de farine frits, avec un peu d'ail et de persil. Voilà, ça c'est, on s'inspire un petit peu de choses qui viennent de chez nous, ou d'Italie, ou des choses comme ça. On a aussi ce qui est plutôt sucré, des biscuits au beurre de cacahuète, avec des verres de farine également. Là, on propose ce soir quelques grillons aux épices, comme ça, pour que les gens puissent, un peu à la manière de l'apéritif, puissent piocher comme ça. Ça va très bien avec... avec une bière ou un jus de fruits, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Donc voilà, là, on commence à proposer 2-3 choses. C'est aussi un test pour nous, puisque c'est la première fois ce soir qu'on se confronte au public.
Début de soirée dans l'allée principale du marché, Jean-Luc Boudinque, le nouveau maire UMP de Toulouse, fraîchement élu, était présent. Hormis les médias qui le suivaient, les habitants de la Rainerie avaient également beaucoup de questions à lui poser sur différentes thématiques, comme les lieux de prière ou des questions d'ordre plus pratique. Mais également voir ce qu'il pensait aussi d'une manifestation comme le marché des créatrices organisée dans un quartier populaire.
J'en pense du bien puisque je suis là, j'ai tenu effectivement... dès aujourd'hui, c'est-à-dire dès le lendemain de mon élection comme maire de Toulouse, à me rendre dans le quartier. J'ai dit d'ailleurs que c'est moi-même qui m'occuperai de ce qu'on appelle la politique de la ville, ce qui veut dire que tous les projets dans les quartiers, je vais être aux avant-postes pour les concevoir, les impulser, les mettre en œuvre. Et donc, je reviens dans le quartier après la campagne électorale et on va me voir revenir souvent. J'ai beaucoup entendu ces derniers temps que les élus n'avaient pas été suffisamment présents dans le mandat passé, eh bien notre équipe et le maire en premier lieu, nous allons être très présents dans les quartiers.
Et pour la création d'entreprises justement dans les quartiers populaires comme ça ?
Oui, ce que je crois c'est que dans les quartiers populaires il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui ont des passions, qui ont des idées. Il faut leur permettre d'épanouir leurs talents, il faut leur permettre de créer et puis d'être autonomes dans leur vie. Hein, les emplois publics ne peuvent pas... résoudre le problème de l'emploi qui est un problème très important, il faut aussi des initiatives privées. Et à partir du moment où on a des initiatives privées, on a des comportements de responsabilité qui, je crois, sont de nature à pérenniser les situations professionnelles.
L'association Del Arte du Mirail Structure, qui a pour objet l'insertion par la culture, s'est associée à l'association Parle avec elle pour le marché des créatrices. Niki, responsable de Dell'Arte, tient un stand sur la participation des habitants dans la vie du quartier.
La participation des habitants, c'est quoi ? Bah, c'est simplement remettre de la démocratie là où il n'y en a plus. Voilà. Nous, on dit quand on est obligé de qualifier la démocratie de locale, de proximité, participative, etc., etc., c'est déjà qu'elle n'est plus démocratique. Voilà. Donc, mais si il faut en passer par ces stades-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'elle soit reconnue et validée. Donc là, pour susciter la participation des habitants, on a mis en place des panneaux d'expression libre, voilà, avec des questions simples, voilà les plus, les moins du quartier, qu'est-ce que vous, on voudriez changer sur le quartier, est-ce que vous pensez pouvoir intervenir sur du changement, comment, etc., etc. Du coup, ça crée des discussions, et là, on n'est pas étonné, on ne tombe pas de l'armoire. Ben, les gens s'arrêtent et il y a une soif de prise de parole et une soif d'expression de dingue. Et ce qui ressort à chaque fois, les habitants nous disent ben, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Voilà. Et même quand on est entendu et quand on est écouté, ben, nos avis ne sont pas pris en compte. Donc il y a une vraie crise de démocratie. Bon, comme il y a eu tout un travail qui s'est fait il y a 2 ans, qui a été impulsé il y a 2 ans, qui a abouti l'année dernière sur le rapport qui a été remis à l'ancien ministre de la Ville, à François Lamy. Un rapport qui a été impulsé par Mohamed Mechmash, président d'Assez le Feu, et Marie-Hélène Baquet, qui est une chercheuse. Donc ils ont fait tout un tour de France, ils ont sollicité les réseaux. Donc nous, on a fait partie de cette commission, on a travaillé sur l'écriture du rapport, on a fait 30 propositions plus une. Donc la une, c'était le droit de vote aux étrangers hors Union européenne, d'accord ? Et après, 30 propositions. Évidemment, le ministre de l'époque et le gouvernement n'a pas retenu les 30 propositions, ils en ont retenu que 5 à minima. Donc nous, on considère que c'est une porte qui s'est entrouverte. Maintenant, il faut qu'on mette un petit coup de pied dedans ou un gros coup de pied dedans pour l'ouvrir un peu plus largement, et notamment la question de la participation et la question de la mise en place de conseils de citoyens dans les quartiers politiques de la ville. Donc on est en train d'impulser cette dynamique là nous, ce qu'on dit, c'est que si c'est impulsé par le haut d'une manière descendante, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une dynamique qui soit impulsée par le bas, de manière horizontale, et qui soit ascendante. Et qu'à un moment donné, ça croise évidemment les élus, puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir. Mais qu'il y ait aussi des espaces de co-construction et de co-décision. C'est ça la réelle démocratie. Bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on en est à lancer une dynamique collective avec des habitants, des acteurs associatifs, pour impulser ce conseil de citoyens.
Vous pensez qu'avec la nouvelle élection, vous allez devoir recommencer un petit peu toutes les démarches que vous avez déjà commencées, en fait ?
Bon, moi, je ne vais pas dire mon âge aux auditeurs, mais je ne suis pas le poulet de l'année, comme on dit. Voilà, je ne suis pas née d'hier. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait, qu'on défait, qu'on refait, et voilà, on fait un pas en avant, 3 en arrière. Donc, bon, on attend de voir. Le nouveau maire s'est engagé à prendre la main sur la politique de la ville. On l'a pris au mot sur pas mal de réunions publiques. On espère qu'il ne va pas nous le faire à l'envers. Nous, on lui a dit, voilà, s'il le fait vraiment dans le bon sens, ben on sera des co-acteurs. Voilà, s'il nous le fait à l'envers, ben on sera en opposition et il nous trouvera contre lui, voilà, comme d'hab.
D'accord. Voilà. Et par rapport justement au stand que vous tenez ce soir, en fait, une fois que tous les habitants auront un petit peu participé avec leurs ressentis et les points forts sur lesquels ils voudraient que ça bouge, ça, vous allez proposer ça à la mairie, en fait ? Enfin, vous allez voir les élus ou...
Non, alors ce qu'on va faire après, dans un deuxième temps, on a laissé une feuille d'émargement. Voilà, toutes les personnes qui souhaitent participer nous ont laissé leurs coordonnées. Donc dans un temps très rapide, là, on va organiser une rencontre, une assemblée avec toutes les personnes, associations, pas associations, habitants, etc., voilà, qui se sentent concernées par cette question-là, pour pouvoir effectivement interpeller les institutions, donc la ville et la préfecture, pour la mise en place de cette table de quartier du conseil de citoyens.
Par rapport à la politique de la ville, par rapport à ce qui a été voté l'année dernière avec Najat Belhovel-Kazem, par rapport aux 4 points forts qu'elle avait mis, par rapport à l'intégration justement des femmes et tout ça, vous trouvez qu'il y a vraiment eu un changement depuis ça, quoi, depuis l'année dernière ?
Non, mais alors là, il ne faut pas mélanger. Najat Belhovel-Kazem, elle n'était pas ministre de la ville, elle n'y est maintenant,
c'est
d'accord,
vrai.
Donc sur la loi, sur la réforme, sur la politique de la ville, elle vient tout juste d'être votée. Voilà, les décrets sont en train de sortir, donc c'est tout frais. Donc on ne peut pas mesurer encore. Mais nous, on s'engouffre là-dedans parce qu'on se dit, si on rate le coche, bah après ce sera encore une fois trop tard. Ça, c'est une chose. Maintenant, là où on est inquiet, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait un ministre délégué à la politique de la ville, donc c'était plutôt un marquage fort, on va dire, enfin en tout cas intéressant. Là, dans le remaniement du gouvernement, la politique de la ville, elle est reléguée aux affaires vie associative, loisirs, jeunesse, sport. Nous, on considère que la politique de la ville, c'est pas un loisir, quoi. Voilà. Ce sont de vrais territoires où il y a une accumulation d'inégalités sociales absolument scandaleuses. Voilà. Donc, du coup, on est toujours organisé en coordination nationale. On se rencontre le 12 avril prochain à Paris. Et on compte bien sortir un communiqué national et interpeller du coup là, un rendez-vous avec la nouvelle ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui vient de prendre la main, pour lui dire pop, on est là, faut pas nous oublier, faut pas nous le faire à l'envers, quoi.
Vous êtes en rapport justement avec d'autres associations dans d'autres quartiers populaires, que ce soit à Toulouse ou dans d'autres villes, quoi.
Oui, depuis 2005, depuis les révoltes de 2005, bon, ça fait plus de 30 ans hein, que la situation des quartiers se dégrade. Bon, il y a une histoire, il y a eu des luttes depuis 30 ans dans plein de quartiers, je ne vais pas le reprendre. Mais en tout cas, les révoltes de 2005 ont eu pour avantage, enfin pour avantage, c'est très con ce que je dis, mais ont eu pour effet, paradoxal, effectivement ça a été des révoltes, mais contrairement à ce que les médias pouvaient dire, c'était une véritable expression politique. Elle s'est exprimée de cette manière-là parce que c'était le seul moyen de se faire entendre, et c'est la cocotte minute qui a explosé, quoi. Ceci dit, c'était des vraies expressions politiques. Et tu peux voir sur la plupart des quartiers populaires de France et de Navarre, il y a des dynamiques collectives qui existent partout. Il y a des listes autonomes qui se présentent dans les municipales. Il y a des listes autonomes qui se présentent au régional. Donc on est tous en réseau. On essaye en tout cas de l'être. C'est ça le plus difficile, de faire converger. Et on sait que c'est le prix qu'il faut qu'on paye de converger nos luttes pour se faire entendre au niveau national. C'est-à-dire qu'on arrête d'être circonscrit sur des petits territoires qui ne concernent pas l'ensemble, le reste de la société française.
Là, par exemple, je ne sais pas si vous étiez aux réunions en amont de la préparation de cet événement du marché des créatrices.
Oui.
Justement, comment ça s'est passé avec les habitants et tout? Comment ils se sont insérés dans le projet?
La preuve, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, qu'à voir ce soir, c'est blindé. Donc, eux, ils ne demandent que ça. Hein. Ils demandent que ça. Moi, je dis toujours, voilà, la question de la participation des habitants, les freins les plus forts, ils vont pas venir des habitants, ils attendent que ça. Les freins les plus forts, ils vont venir des acteurs associatifs et des politiques. Parce que le partage du pouvoir, ça fait mal, quoi. Voilà.
L'association Dell'Arte a également été partenaire d'un autre projet dans le quartier qu'on retrouvait ce soir-là. Sous la tente consacrée au cinéma, trois projections sont prévues, dont la comédie dramatique Ghetto Sentiment, réalisée par Boris Claret, de la Trame, en partenariat avec Dell'Arte. Un beau projet, écriture collective du scénario, organisation du casting, une vingtaine de comédiens amateurs originaires du quartier ont été auditionnés. 12 jours de tournage dans l'arénerie.
Alors cette histoire en fait est partie il y a 2 ans... On était parti avec des habitants du quartier pour créer une escale du festival Tout Couleur à l'arénerie. Voilà, donc on avait mis en place un comité d'organisation, voilà, avec des réunions le soir et tout. C'est un boulot de 6 mois, bon, qui n'a pas pu être mené avec l'ancienne équipe municipale, je ne reviendrai pas là-dessus. On avait fait des communiqués à l'époque, etc. Mais du coup, quand on organise une émulation comme ça, bah forcément, il y a plein d'idées qui sortent de partout. Et un soir, à plus de minuit, sur la place à Bâle, au bord du lac, on refaisait le monde, évidemment, et on était avec des jeunes. Et donc Coco, je peux le nommer parce que c'est vraiment lui, c'est son idée de départ. Coco des Sarrazins a dit « Ouais, pourquoi on ne fait pas un film pour changer l'image du quartier ?» Moi j'ai dit « Banco ». Bon, j'aurais mieux fait de me taire, non, je rigole. Du coup c'est parti en épingle comme ça. Au départ on était parti sur un documentaire pour monter les richesses du quartier, pour tordre le cou un peu aux faits divers qui apparaissent toujours dans les médias. De fil en aiguille, donc y a un groupe qui s'est constitué d'habitants, de jeunes principalement, jusqu'à 30 ans, plus de 30 ans. Et qui sont partis pour faire une fiction, voilà. D'où Ghetto et Sentiment, qui est un film magnifique, qui a mobilisé plus de 100 habitants du quartier, à des niveaux, autant il y a des acteurs, autant il y a des habitants qui nous ont permis de tourner chez eux. Enfin voilà, ça montre les paradoxes des quartiers populaires, il y a des vraies richesses. Et ce film, bon, on l'a beaucoup diffusé en fin d'année. Là, on le diffuse cette année au niveau national, dans tous les réseaux des quartiers populaires. On espère pouvoir aussi sortir des quartiers populaires parce que c'est aussi dire aux gens de l'extérieur, ben voilà la vraie réalité des quartiers populaires, ce ne sont pas des indigènes et on ne fait pas que brûler les voitures dans les quartiers populaires. Je caricature mais en gros ouais, c'est ça, ça, voilà. Et donc voilà, cette année on est parti. Donc ce soir ça nous paraissait hyper important de projeter ce film, même si beaucoup de personnes l'ont déjà vu. Mais c'est pas grave, c'est un outil de valorisation. À chaque fois les habitants sont fiers. Donc là, la prochaine étape, donc on va le diffuser dans différentes villes de France. Et au mois de mai, on va sortir à peu près 150 ou 200 DVD avec une jolie jaquette qu'on va remettre officiellement à tous les protagonistes du film. Et on espère que les politiques viendront.
D'accord.
Voilà.
Et justement, au niveau de l'écriture du scénario, tout ça, ça a été collectif en fait.
Complètement, complètement. Moi, j'y ai pas participé volontairement parce que je voulais avoir la surprise. Et quand ils ont décidé de partir sur une fiction, je me suis dit, oh yeah, ça c'est chaud. Bon, du coup, j'aurais dit, bon vent. Et le résultat, il est juste extraordinaire, quoi.
J'ai un peu la tête dedans là, donc j'ai un peu du mal à dresser le bilan. Quand je vois les sourires, on va dire, de toute génération, des hommes, des femmes, des petits, des grands, des papis, des mamies, j'ai l'impression que oui, il y a eu assez de fluidité et assez de choses chouettes qui se sont vécues. J'ai l'impression que ma collègue m'a dit qu'elle a vu toutes les créatrices d'entreprises qui sont satisfaites aussi de leur soirée. Donc voilà, il y a des gens de l'extérieur qui sont venus. Donc oui, effectivement, le bilan est plutôt très positif à ce niveau-là.
Donc vous allez pérenniser, vous pensez, pour les années prochaines ?
Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, on va en faire quelque chose, ça c'est évident, on est obligé. Parce que je pense que ça va donner... pérenniser nous, on ne sait pas. Pérenniser ce type d'initiative, oui, sur l'espace public. Sachant qu'on est sur la nouvelle rue de Kiev avec sa nouvelle fonction, hein, qui vient juste d'être rénovée, et que cet espace, au-delà des marchés hebdomadaires qui vont se tenir, c'est peut-être aussi un espace d'appropriation pour les habitants et les habitantes. Et oui, il faut qu'il se passe des choses, il faut que la rainerie bouge autant que partout ailleurs. Donc oui, pérenniser, oui, mais comment encore, on ne sait pas.
Cette émission a été réalisée par l'association d'éducation populaire et de diffusion artistique Gudule et Galipette en partenariat avec l'association Underground. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.